VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Il est 18h à Chibikutoke au Burundi. Bonsoir, bienvenue. Médiation dans la crise du Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, Crispas Kiyonga, a pris le relais de son président Yoweri Museveni pour assurer la médiation entre les différents acteurs de la crise. Le président Museveni, à son départ de la capitale burundaise hier, n'a pas indiqué si au menu des discussions figurerait la question d'un nouveau report de la présidentielle, déjà repoussé deux fois, exigé par l'opposition, mais refusé par Bujumbura, qui argue d'un risque de vide institutionnel à l'expiration du mandat du président Nkurunziza le 16 août prochain. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, a appelé à la reprise rapide de la coopération entre les FRDC et la MONUSCO dans les opérations militaires contre les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. Eddy Issango.
Selon Radio Okapi, Saïd Djinit a rencontré mercredi à Kinshasa le président Joseph Kabila pour discuter de la situation dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo. Il était accompagné du secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et les entretiens avec M. Kabila ont également porté sur la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Toujours selon Radio Okapi, M. Djinit a exprimé le soutien des Nations Unies au processus de rapatriement des éléments des FDLR installés provisoirement dans des camps de transit en RDC. Par ailleurs, il a appelé à la reprise rapide de la coopération entre les FRDC et la MONUSCO dans les opérations militaires contre les FDLR. La MONUSCO a suspendu début février dernier sa coopération dans l'attaque des FDLR à cause de la présence dans la chaîne de commandement de deux généraux congolais soupçonnés de graves violations des droits de l'homme.
En visite à Washington, la conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles s'est adressée à l'Institut de la paix des États-Unis. Janine Mabunda-Lyoko a évoqué les progrès dans la lutte contre les violences sexuelles à l'endroit des femmes et des jeunes filles et les efforts de réintégration des enfants soldats dans son pays. Un message qu'elle a repris au département d'État en soulevant la possibilité d'une réintégration de la RDC au sein de la GOA, la loi américaine sur les opportunités de croissance en Afrique. On écoute Mme Mabunda-Lyoko au micro de Camille Gros-Didier.
Je reste très attentive au dialogue que nous aurons comme nation avec les États-Unis sur la question de la GOA, pour lequel nous n'avions plus été éligibles à cause des questions de violences sexuelles et de recrutement forcé d'enfants. J'espère que la mission que je mène va peut-être un jour, et plutôt dans un jour proche, je l'espère, convaincre les autorités américaines sur la question de la GOA, parce que les femmes du Congo aujourd'hui ont besoin de capacitation économique, de pouvoir économique, et ça, avec l'élargissement du traité AGOA au bénéfice de la RDC, ça pourrait être un plus.
C'est un plus dans quel sens?
Je donne un exemple. Il y a cette ONG de Ben Affleck qui a encadré en fait des femmes survivantes de viol pour des activités agricoles, notamment la production de cacao et de café, qu'ils utilisent aujourd'hui pour produire du chocolat qui est exporté aux États-Unis. Et ça, c'est un bel exemple de à quoi AGOA peut servir pour des femmes survivantes de viol qui se sont engagées dans l'economic empowerment. Donc voilà, le Congo, c'est pas qu'une histoire triste. Je le dis souvent, je peux pas faire cette mission et ce résultat que nous avons n'est pas isolé. Il s'intègre dans une politique de développement. Il y a un engagement très fort du président Kabila, il faut quand même le noter. C'est peut-être lié à son jeune âge, parce que quand on est d'une génération un peu moderne, on est plus sensible aux questions de l'égalité des genres, du positionnement de la femme, que si on a 65 ans ou 70 ans. Donc profitons de cette opportunité générationnelle-là pour capitaliser en tant que femme du Congo et pour raconter cette autre histoire du Congo.
Janine Mabunda-Lyoko, conseillère spéciale du président Joseph Kabila en matière de lutte contre les violences sexuelles en RDC. Et dans l'extrême nord du Cameroun, les autorités ont interdit le port du voile intégral pour lutter contre les attentats. Le gouverneur Medjia Wa Bakari a déclaré que le voile intégral est complètement interdit dans la région de l'extrême nord. Le Tchad voisin, également la cible d'attentats de Boko Haram, a interdit le port du voile intégral. Le Gabon, jusqu'ici épargné par les violences, a décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le hijab.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Égypte, un bateau de la marine a pris feu aujourd'hui sans faire de victimes lors d'affrontements entre des militaires en patrouille en Méditerranée et des djihadistes au large de la péninsule du Sinaï. Le navire a pris feu d'après l'AFP à la suite d'un échange de tirs. Le nord de cette région est le bastion de la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique qui a tué des centaines de policiers et de soldats dans des attentats spectaculaires. En Somalie, destruction tôt ce matin lors d'une frappe de drone d'un véhicule appartenant à la milice des Shebab. Je ne vous en dis pas plus. Félix Yepassi Zembrou.
Selon des témoins qui ont entendu l'explosion, la voiture qui transportait apparemment de hauts responsables de la milice des Shebab a sauté aux alentours de la ville de Barder, dans la région de Jeddo, une localité capturée en 2009 par les Shebab qui en ont fait l'un de leurs bastions depuis. Les forces somaliennes et la force de maintien de la paix de l'Union africaine, la MISOM, ont lancé une offensive contre cette région du centre de la Somalie ces derniers jours, signalent des responsables. Les Shebab qui cherchent à renverser le gouvernement soutenu par l'Occident pour imposer leur interprétation stricte de l'islam, ont été chassés de leurs principaux bastions par les forces africaines et somaliennes. Néanmoins, ils continuent leur guérilla.
Merci Félix. En Tunisie, le président Béji Saïd Essebsi a proposé un projet de loi pour pardonner aux personnes condamnées ou poursuivies pour corruption à condition qu'elles remboursent à l'État les sommes illégalement perçues. Nicolas Pinault.
Le texte a été présenté au Conseil des ministres et doit être envoyé au Parlement dans les plus brefs délais. Il entend stopper les poursuites et procès et annuler les peines contre des fonctionnaires pour des faits de corruption, sauf s'ils ont touché des pots de vin ou se sont rendus coupables de détournement de biens publics. Si ce projet de loi est approuvé par le Parlement, les personnes visées devront présenter un dossier à une commission qui sera mise en place. Elles devront rembourser une valeur égale à l'argent détourné ou au profit obtenu, avec un taux de 5% pour chaque année depuis les faits. Le président Kaïd Essebsi a estimé que sous le régime de Ben Ali, de nombreux fonctionnaires n'avaient d'autre choix que d'obéir aux ordres. Selon lui, il faut maintenant améliorer le climat des affaires et encourager les investissements dont la Tunisie a tant besoin pour faire face à l'épineuse question du chômage.
Ici aux États-Unis, mise en garde de la présidente de la Fed, la Banque centrale américaine au Congrès à Washington, Janet Yellen a averti les parlementaires qu'en renforçant le contrôle du Congrès sur la Fed, ils pourraient réduire l'indépendance de la Banque centrale et risquer d'endommager l'économie du pays. Camille Gros-Didier.
Janet Yellen comparaissait mercredi devant une commission de la Chambre des représentants dans une atmosphère parfois houleuse.
Efforts to further increase transparency. No matter how well intentioned,
les efforts pour renforcer la transparence, aussi méritoires soient-ils, doivent éviter tout impact inattendu qui pourrait saper la capacité de la Réserve fédérale à forger sa politique dans le meilleur intérêt des familles et des entreprises américaines, a déclaré Mme Yellen. Par contre, Jeb Hensarling, président de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, a estimé que la Banque centrale doit fournir davantage d'informations au Congrès et aux contribuables, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent mieux les changements dans les politiques menées par la Fed. Par ailleurs, Mme Yellen a de nouveau plaidé pour une hausse des taux directeurs de la Fed cette année, malgré les incertitudes économiques liées notamment à la Grèce ou à la Chine. Depuis 2008, la Réserve fédérale maintient ses taux directeurs proches de zéro pour soutenir l'activité, mais elle songe désormais à les relever à mesure que l'économie américaine s'améliore et s'approche de ses deux objectifs, le plein emploi et une inflation annuelle à 2%.
Et le sommet anti-pauvreté s'achève aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Après d'âpres négociations avec les pays riches, les pays en développement ont finalement renoncé, selon l'AFP, à la création d'un organisme chapeauté par l'ONU qui aurait eu pour mission de lutter contre l'évasion fiscale qui leur fait perdre chaque année des milliards de dollars. Ils ont abandonné suite aux appels pressants de l'Éthiopie, pays hôte du sommet qui craignait un échec de la réunion sur son sol. Les pays riches estimant que l'OCDE, qui regroupe les 34 pays les plus avancés, est une instance suffisante pour débattre des questions de taxation internationale et en fixer les règles. Et puis, sport, l'enquête américaine autour du scandale de corruption à la FIFA a connu un nouveau rebondissement ce jeudi avec l'annonce par la Suisse de l'extradition mercredi vers les États-Unis de l'un des 7 responsables du football mondial arrêté à Zurich le 27 mai. Cet homme, qui refuse que son nom soit publié par les autorités suisses, a été pris en charge à Zurich par 3 policiers américains qui l'ont escorté jusqu'à New York, a précisé l'Office fédéral suisse de la justice. Il s'agit de la première extradition d'un détenu par la Suisse vers les États-Unis dans le cadre de cette affaire. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.